Le journal Jeanne Serrin.
Bonsoir à toutes et à tous. La bataille des cartes électorales a débuté aux États-Unis. À moins d'un an des élections de mi-mandat, le Texas adopte un redécoupage taillé sur mesure pour les Républicains. Nous serons à New York dès le début de ce journal. Après plus de deux semaines de terribles incendies, l'Espagne commence à voir le bout du tunnel. Les autorités espagnoles, pour la première fois, optimistes sur les prochains jours. À Berlin, la mémoire coloniale effacée de l'espace public. Une rue renommée après des années de controverses, reportages à suivre. Enfin, dans l'actualité, en France, des orques masturbés par des soigneurs au Marineland. La direction du parc aquatique d'Antibes tente de se justifier face à la polémique. Le Texas ne nous laisse jamais tomber. Donald Trump se réjouit sur son réseau social Truth de l'adoption d'une nouvelle carte électorale par le Parlement texan. Poussé par le président américain, ce changement devrait être favorable aux républicains à moins d'un an des élections de mi-mandat. Loïc Loury, démocrate et républicain, se livre en ce moment une bataille autour du découpage électoral.
Une victoire facile pour un siège à la Chambre dans 5 circonscriptions supplémentaires de l'État. C'est ce que promettent à Donald Trump les républicains du Texas. La nouvelle carte votée hier permet en effet de diluer le vote démocrate grâce à un habile redécoupage opéré en temps normal au moment du recensement. C'était sans compter sur le président qui réclamait un tel charcutage électoral en vue des midterms traditionnellement peu favorables au président en exercice. Et alors que le milliardaire ne dispose que d'une infime majorité à la Chambre et la manœuvre est légale. Les démocrates en ont d'ailleurs eux aussi dans le passé usé et abusé. Le gouverneur de Californie promettant désormais d'imiter le Texas. Problème, les États les plus progressistes ont installé des garde-fous légaux rendant plus difficile le redécoupage partisan de leur carte électorale. Donald Trump, lui, se tourne désormais vers l'Indiana, l'Ohio ou le Missouri.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Toujours pas de réponse de Benjamin Netanyahou sur le plan de cesser le feu dans la bande de Gaza proposé par les médiateurs et signé par le Hamas en début de semaine. Une trêve de 60 jours et la libération en deux temps des otages toujours retenus dans l'enclave palestinienne. Sur le terrain, Israël menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ces conditions. Hier, l'ONU a décrété l'état de famine à Gaza, une première au Moyen-Orient. Alors que les efforts diplomatiques se sont accélérés ces dernières semaines, la perspective d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky s'éloigne de jour en jour. Hier, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé le président ukrainien de bloquer l'organisation de cette éventuelle réunion. Sur le terrain, Moscou revendique aujourd'hui la prise de 2 villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Un pompier tué au Portugal, il luttait contre les gigantesques incendies qui touchent le pays depuis 2 semaines. Des feux toujours en cours et qui ont ravagé plus de 60 000 hectares. Du côté de l'Espagne, les incendies, eux aussi, ne sont toujours pas éteints. Mais les autorités affichent aujourd'hui leur optimisme. La fin des incendies se rapproche, affirme la chef de la protection civile. La correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
C'est la première fois qu'une source officielle liée au gouvernement donne enfin un message d'espoir. L'Espagne est, je cite, beaucoup plus proche de la fin des grands incendies. C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Barcones, la directrice de la protection civile. Sur le terrain, on le constate, le terrible incendie de Jarilla, par exemple, en Extrémadure, à l'ouest du pays, est contrôlé. On le surnommait El Monstruo, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui seul. Reste tout de même 18 incendies hors de contrôle, toujours dans le quart nord-ouest d'une Espagne, la zone qui a le plus souffert cet été. 18 feux, dont 17, presque tous de niveau 2, c'est-à-dire dangereux pour les personnes et les habitats. Et il y a un incendie qui préoccupe particulièrement en ce moment, c'est celui d'Igueña, dans la province de León. Reste aussi ces 400 000 hectares brûlés en 2025. Selon les dernières estimations, il faut remonter à 30 ans, en 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur, et sur une année entière. Et puis ce constat amer, cette impuissance, c'est uniquement quand la météo se calme que les feux redeviennent contrôlables. Pendant la canicule, au contraire, les secours en sont souvent réduits à protéger les populations et leurs habitations et à attendre que les températures redescendent enfin pour terminer le travail.
En Allemagne, c'est une cérémonie symbolique qui s'est tenue aujourd'hui à Berlin en ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. La rue des Morts, une artère du centre de Berlin, a été débaptisée pour porter désormais le nom d'Anton Wilhelm Amo, intellectuel et premier universitaire noir en Allemagne. Un hommage rendu après des décennies de débats sur l'origine du nom Morts, considéré comme discriminatoire par des élus du quartier et des militants antiracistes. Le reportage de notre correspondant David Philippot.
Le drap glisse et le nom de l'ancienne rue est barré pour laisser apparaître le nouveau. Sharon Odwa Otoo, une écrivaine et activiste britannique, la première à prendre la parole sur la petite scène, le présente.
C'était un jeune garçon quand il a été envoyé au XVIIIe siècle du Ghana vers l'Allemagne comme cadeau. Et il est devenu le premier philosophe noir d'Allemagne. C'est un grand jour de joie qu'on rende hommage à cet homme originaire de la même région que mes parents. Je suis fière et heureuse.
Marianne Ballet-Mudumbu de l'association panafricaine de femmes Massosso est soulagée de voir disparaître l'appellation rue des Morts.
Quand il y a une dénomination péjorative, donc qui nous vient de l'esclavage, qui nous vient d'une période où nous avons été occupés, où on a été pillés.
Donc le M, pour vous, c'est
péjoratif et raciste.
Un passé colonial qu'il est difficile de faire passer. Le combat pour la débaptisation a duré 30 ans. Porté jusqu'hier devant la justice face à un collectif de riverains par la maire écologiste de l'arrondissement, Stéphanie Remlinger.
Il me tient à cœur, surtout dans le monde actuel, que nous montrions que les personnes les plus différentes peuvent vivre ensemble. Le travail de mémoire sur notre passé colonial en fait partie.
En 10 ans, c'est la 25e rue débaptisée à Berlin pour effacer le passé colonial et raciste de la capitale allemande.
Le reportage de David Philippot. Il faut éclaircir tout ça. François Bayrou entend mettre fin aux avantages indus des responsables politiques. Il l'a dit dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Le Premier ministre veut passer au crible et supprimer d'éventuels privilèges dont bénéficieraient des responsables politiques. Une mission qu'il a choisi de confier à l'ancien député socialiste René Dosière.
Faire la transparence, la vérité et la probité sur la gestion des fonds publics, c'est ce qui renforce la confiance des citoyens dans leurs élus et qui consolide la démocratie dont on voit bien qu'elle est menacée par le populisme. Donc on verra, je le pense parce que je l'ai déjà dit et écrit, que le coût de la démocratie n'est pas aussi élevé et en tout cas abusif que le pensent la plupart des citoyens. Mais il est toujours utile de le rappeler, les Français accordent encore beaucoup d'importance à leurs institutions, à la présidence, aux ministres, au Parlement. Et donc, il faut que ces institutions soient naturellement tout à fait exemplaires. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les symboles sont importants.
René Dosière, interrogé par nos confrères de France Info. François Bayrou qui fera officiellement sa rentrée politique lundi avec une conférence de presse. Le Premier ministre menacé de censure et d'un appel à tout bloquer le 10 septembre lancé par des internautes auxquels se sont joints plusieurs formations politiques. Une stèle en hommage aux victimes du totalitarisme communiste inaugurée en ce moment à Saint-Raphaël. Une première en France, mais l'initiative du maire LR de la ville ne plaît pas aux représentants du PCF. Le parti appelle à manifester. La ville d'Aurillac en proie à une nouvelle nuit de violence hier soir. Une cinquantaine de personnes, pour la plupart cagoulées, ont scandé des slogans hostiles à l'État, a précisé aujourd'hui la préfecture. C'est la deuxième soirée de tension que connaît la ville en marge du Festival international de théâtre de rue qui se termine ce soir. Deux personnes ont été interpellées. Que s'est-il passé dans le bassin des orques du Marineland d'Antibes? De nombreuses questions continuent de se poser après la publication d'une vidéo par une ONG de défense des cétacés. On y voit deux soignants du parc masturber Keijo, une orque mâle. Les images ont beaucoup choqué et interrogent alors que le parc a fermé ses portes en janvier dernier. Plusieurs ONG accusent Marineland de pratiquer ces gestes pour revendre la semence de l'orque, ce qui est interdit en France. Bonsoir Savannah Ruellan.
Bonsoir Jeanne.
Le parc reconnaît avoir stimulé sexuellement l'orque, mais dément la dimension commerciale.
Oui, le parc prétend que c'est pour éviter que l'orque n'ait de rapport consanguin avec sa mère, Wiki, seule autre orque du bassin. Cette hypothèse est plausible pour la fondatrice de l'association Cétacé, Christine Grandjean, qui trouve néanmoins cette pratique très problématique.
Ce sont des animaux qui ont une très forte conscience d'eux-mêmes, très forte conscience des autres, qui ont une grande empathie. Donc masturber un être qui est conscient à ce point-là, je veux dire, c'est extrêmement humiliant quelque part. C'est un manque de respect total pour l'animal. C'est maltraitant psychologiquement pour moi.
La militante soupçonne une volonté d'habituer Keijo à la pratique en vue d'un transfert vers un autre parc pour permettre l'insémination forcée de femelles orques. Le Japon, qui a récemment perdu sa dernière orque mâle, a manifesté son intérêt pour le jeune cétacé.
Mais pour des orques, ce genre de situation n'a rien de nouveau. Il interroge tout de même, Savannah, le système de captivité des cétacés.
Oui, l'usage de la semence d'orque mâle pour grossir les effectifs en captivité se fait depuis des décennies. C'est ce qui cause la consanguinité des orques captifs. La moitié d'entre eux sont ainsi issus de la semence d'une même orque mâle, Tilikum, tristement célèbre pour avoir tué 3 personnes dans un parc en Floride.
Tilikum, il ne servait plus que de banque de sperme. On le masturbait à tour de bras et hop, on envoyait sa semence dans le monde entier. C'est quand même grave. En plus, une orque rendue folle et psychotique dans un bassin, c'est comme si on faisait reproduire un chien mordeur qui est devenu dangereux parce qu'il a été maltraité. On génère des problèmes avec la captivité qu'on est incapable de résoudre derrière.
La question du devenir de ces orques se pose donc. La réintroduction en milieu naturel a été écartée d'emblée pour ces cétacés qui n'ont jamais eu à chasser pour se nourrir.
Les explications de Savannah Ruelan. Ce sont des chiffres qui rassurent le football français. Alors que la deuxième journée de Ligue 1 a débuté hier, la nouvelle plateforme qui diffuse les matchs Ligue 1 Plus enregistre 600 000 abonnés. Un signal encourageant pour la Ligue de football professionnel qui a fait un pari risqué en lançant cette plateforme. Un modèle inédit ou presque. Que Valentin Gris.
Il n'y a guère que les richissimes organisations de la Formule 1 ou de la NBA pour avoir lancé des plateformes de ce type, sans pour autant d'ailleurs se passer d'un diffuseur exclusif. Dans le football, un seul exemple existe, celui du championnat néerlandais. En 2008, la Ligue locale juge les offres des chaînes de télé trop faibles. Elle lance son propre produit, qui périclite en quelques mois. Mais la Ligue 1, elle, n'avait plus vraiment le choix, rappelle Pierre Metz, consultant spécialisé.
Tant que vous avez des droits télé, c'est assez normal que finalement, on voit très peu de ligues qui se lancent dans ce projet parce qu'ils préfèrent le confort et la sécurité des droits télé. Ici, ce qui se passe, il n'y a plus d'entreprises en France qui semblent prêtes à payer des droits télé.
La relation de la LFP avec Canal+, acteur historique, est glaciale. DAZN et Amazon ne veulent plus payer à perte. La LFP doit donc se débrouiller seule pour redonner de la valeur au championnat français. Des abonnements abordables entre 10 et 15 euros, des contenus exclusifs et de l'austérité sportive. Les clubs ne toucheront que 80 millions d'euros cette année, contre 500 il y a encore un an. Objectif, 200 millions d'euros de revenus et 2 millions d'abonnés en 2 ans. Pour faire du foot un produit attractif, souligne Christophe Lepetit, économiste du sport.
D'ici quelques temps, cette chaîne-là, elle peut avoir trouvé son rythme de croisière, tant en nombre d'abonnés qu'en qualité éditoriale, etc. Et elle peut avoir de nouveau de la valeur auprès des acteurs du marché. Et il sera peut-être temps à ce moment-là de rediscuter avec les acteurs du marché et de, pourquoi pas, à ce moment-là, retravailler à la question d'une distribution exclusive, voire de revenir à l'ancien modèle.
Il faudra pour cela résister notamment au piratage massif et qui avait notamment fait couler les audiences du diffuseur DAZN l'année dernière.
Certains sont peut-être déjà sur la route du retour des vacances, quand d'autres n'ont pas eu la chance de quitter leur domicile. Mais certains parents redoublent d'ingéniosité pour pallier cette situation. Passer d'une cité à l'autre, par exemple, c'est un phénomène méconnu et pourtant très fréquent. Tobias Kleser.
Aller en vacances chez un membre de la famille, même à quelques kilomètres, c'est l'occasion pour ces jeunes de changer d'air. Liam, 28 ans, ancien habitant d'un quartier prioritaire des Hauts-de-Seine, se souvient avec nostalgie de ces moments.
Même si je partais pas très loin, en vrai j'étais à 1 heure de Paris, mais pour moi j'étais à l'autre bout du monde. Ça me permettait de respirer un petit peu. Juste le fait de retrouver mon cousin, c'était les meilleurs souvenirs de ma vie en vrai.
Et dans l'autre sens, son cousin d'Orléans, Zaoui, y trouvait lui aussi son compte.
Les Parisiens et les gens de Provence, on a une vie complètement différente. Moi, j'aimais beaucoup venir sur Paris parce qu'ils avaient une mentalité différente. C'était des gens différents. Je me suis fait des amis qui, aujourd'hui, font partie de mon cercle très restreint d'amis. Donc, c'était comme une seconde vie pour moi. Et surtout que j'ai pris du temps à comprendre qu'en fait, j'allais pas en vacances à Paris, mais j'allais en vacances en banlieue. Je crois jusqu'à mes 10, 11 ans, je pensais que où j'étais, c'était à Paris. Mais en fait, pas du tout. C'était dans le 92.
L'échange peut même se faire d'un arrondissement de Paris à l'autre, comme l'affirme Charlotte Servelle de l'Arc 75, une association qui œuvre à l'intégration des jeunes en difficulté. Selon cette responsable, les déplacements sont bénéfiques pour les adolescents.
C'est vraiment vécu comme un réel départ en vacances, une possibilité d'exister ailleurs autrement que dans son secteur d'habitation. C'est uniquement pour les familles plus élargies sur d'autres territoires. Donc les familles vraiment isolées, elles, n'ont pas cette opportunité-là.
Depuis 2020, dans le cadre du dispositif national Quartier d'été, de nombreuses associations proposent aux enfants des quartiers prioritaires des activités estivales gratuites.
La météo demain matin, un ciel couvert au nord-ouest, mais de belles éclaircies sur le reste du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Martin Descloseaux à la technique, Olivier Arnet.